Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous, une émission spéciale sur la chirurgie cardiaque des enfants aujourd'hui avec l'association française La Chaîne de l'Espoir. Vous le savez peut-être, les malformations cardiaques sont les malformations les plus fréquentes chez l'enfant. D'origine congénitale ou infectieuse, elles sont très invalidantes et parfois mortelles, d'où la nécessité d'avoir recours à la chirurgie quand le degré de sévérité le permet. Et c'est là que les choses se compliquent dans de nombreux pays africains. Faiblesse du plateau technique, manque de médecins spécialisés et de chirurgiens, problème de formation, développer un service de chirurgie cardiaque n'est pas une mince affaire, mais pas impossible. Des pays comme le Mali ou le Sénégal peuvent en témoigner. Mais un seul service de chirurgie ne permet pas d'opérer tous les enfants. Ainsi, ils sont plus de 3000 sur liste d'attente, rien qu'à Bamako. Heureusement, eh bien, depuis les années 90, l'association La Chaîne de l'Espoir permet à des enfants venus principalement d'Afrique et d'Asie, eh bien, d'être opérés en France. Alors, comment se passent ces transferts de patients? La coopération entre médecins, l'accueil des enfants qui doivent parfois rester 8 mois en France suite à leur opération. Et bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Ils sont très nombreux. Le professeur Olivier Baron, chef de service de chirurgie des cardiopathies congénitales et pédiatriques au CHU de Nantes, responsable de l'antenne nantaise de l'association La Chaîne de l'Espoir et chirurgien référent pour les programmes de chirurgie cardiaque de l'association. Le professeur Mamadou Bokari Diarra, cardiologue, directeur de l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg à Bamako, au Mali. Le docteur Adama Sawadogo, chirurgien cardiovasculaire au CHU de Tingandogo à Ouagadougou. Nous serons également avec une ancienne patiente, Vaseline Bayo Moulawe, opérée d'une cardiopathie en France en 2011 alors qu'elle avait 12 ans. Clotilde Legrand sera également parmi nous, famille d'accueil ou plutôt famille de cœur, nous dira-t-elle. Elle accueille des enfants depuis 13 ans, elle a accueilli 13 enfants pour être précis. Et enfin, l'homme sans qui tout cela n'aurait pas été possible, le professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque et fondateur donc de l'association La Chaîne de l'Espoir. Voilà pour le programme Priorité Santé, bienvenue à tous.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Olivier Baron, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Alors, actualité oblige, on va commencer avec la pandémie de Covid-19. Quel a été l'impact justement du Covid-19 sur les actions de la chaîne de l'espoir, professeur ?
L'impact a été prépondérant puisque nous ne pouvons plus continuer nos missions et nous ne pouvons plus faire venir d'enfants. Donc, arrêt ou ralentissement certains de nos activités. Certains enfants sont restés confinés en France après avoir été opérés courant du mois de mars.
Oui, j'ai vu qu'il y avait trois enfants du Burkina qui ont pu rentrer, je crois, le 22 juin, très récemment finalement.
Oui, très récemment, mais enfin, il y en a d'autres qui sont restés bloqués. Et puis, il y a surtout la liste d'attente qui s'allonge. À une période où normalement on organise des missions de façon mensuelle dans tous les pays pour aider les centres référents, bien sûr.
Alors j'ai vu qu'au Burkina Faso toujours, le CHU de Tingandogo avait été réquisitionné pour traiter les patients victimes de Covid-19.
Oui, effectivement, transfert de nos activités localement, bien sûr, on en a mis en place dans ces pays-là des réanimations aux normes européennes. Donc, pour soigner les patients Covid, effectivement, ces réanimations se prêtent tout à fait à venir en aide à ces patients parce que les autres structures locales dans ces pays sont loin d'être aux normes que l'on impose, nous, pour la chirurgie cardiaque.
Alors, des retards donc pour la prise en charge de ces enfants et pour des opérations, est-ce que ça met la vie de certains enfants en danger ou quand même pas ?
Bien sûr, ça met la vie de ces enfants en danger puisque ce sont des chirurgies qui sont vitales et augmenter les délais, évidemment, sur nos listes d'attente, nous avons des enfants qui deviennent inopérables, voire qui décèdent et c'est vraiment dramatique de ce point de vue-là, effectivement.
Quand est-ce que vous prévoyez un retour à la normale et des retours sur le terrain, je veux dire, hein?
Oui, oui, mais pour l'instant, c'est l'incertitude. Ce qui est la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'au Mali, les équipes locales que l'on a formées ont recommencé à opérer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est une grande assurance pour nous. Mais en ce qui nous concerne, nous, projet de mission et déplacement à l'étranger, pour l'instant, c'est statu quo. Et faire venir des enfants en France, c'est aussi statu quo.
Alors,
Mais je répète, la bonne nouvelle, c'est que le Mali est devenu un petit peu autonome, même pas mal autonome, et que c'est eux qui opèrent maintenant et qui reprennent leur programme.
Mais on sera tout à l'heure avec le professeur Mamadou Bokary Diarra, qui nous dira tout ce qui se fait justement au Mali, parce que la situation a bien évolué depuis 2018. Professeur Baron, les malformations cardiaques, on dit que celles sont les malformations les plus fréquentes chez l'enfant. À quoi sont-elles dues généralement? Est-ce qu'il y a des explications?
Alors, 1% des enfants naissent avec une malformation cardiaque. On n'a pas de réelle explication. Très peu sont héréditaires ou sont liés à des anomalies chromosomiques. Les étiologies sont plurifactorielles, mais quel que soit le pays, que ce soit un pays européen, africain ou ailleurs, c'est 1% des naissances. Malformation cardiaque, plus ou moins sévère, bien sûr, qui nécessiteront plus ou moins un acte chirurgical. On pense que 50% d'entre elles nécessiteront une réparation chirurgicale.
Mais c'est quand même beaucoup.
Oui. Et dans les pays dans lesquels on va, il y a aussi tout un autre pendant d'atteinte cardiaque, qui sont les cardiopathies acquises, liées à un germe pernicieux qui est le streptocoque. Et ce streptocoque, lorsqu'il n'est pas ou mal soigné, génère un syndrome immunitaire qui est le syndrome post-streptocoxique et qui entraîne des dégâts considérables au niveau des tissus cardiaques, notamment au niveau des petits clapets qu'on appelle les valves cardiaques. Et ça génère des handicaps extrêmement graves chez des très jeunes enfants.
Et comment expliquez-vous justement les dégâts du streptocoque mal soigné? C'est compliqué à prendre en charge le streptocoque, c'est pour ça ou?
Non, en France, on est dans les pays européens, on a réussi à en venir à bout parce que la médecine est suffisamment développée pour mettre en place un traitement antibiotique lorsque l'on a une angine à streptocoque, par exemple. Mais dans les pays d'Afrique, où les moyens médicaux sont extrêmement pauvres, eh bien, ces angines ou ces infections à streptocoque ne sont pas soignées, et ça génère ce que l'on voyait autrefois en France, dans les années 60, un syndrome post-streptocoxique, et ce que l'on appelle la maladie rhumatismale, qui est un vrai fléau pour les valves cardiaques.
À quel stade, et comment ces malformations sont-elles dépistées, professeur Baron?
Alors, elles sont dépistées lorsqu'elles deviennent symptomatiques. Je veux parler des malformations congénitales. Il y a un certain nombre d'enfants qui naissent avec des malformations congénitales qui sont pas viables à court terme. Et ces enfants-là, malheureusement, on ne les voit pas parce que dans les maternités, dans les pays dans lesquels on va, eh bien, ce sont des enfants qui ne survivent pas. Par contre, ceux qui survivent parce qu'ils ont un réel handicap, mais malgré ce handicap, ils survivent. Je pense surtout à ce qu'on appelle la maladie bleue, la tétralogie de Fallot, qui est une maladie qui permet une certaine survie pendant des années. Eh bien, ce sont des enfants qui sont manquent d'oxygène, donc ils sont extrêmement asthéniques, essoufflés au moindre effort, et ils ont les téguments bleus et de cette maladie du fait d'un manque d'oxygène, et c'est comme ça que ces enfants-là sont dépistés.
Alors 70 à 90% des cardiopathies parmi les plus visibles sont dépistées avant la naissance par échographie fœtale. Le problème, c'est que de nombreux pays ne disposent pas d'échographie.
Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que la chaîne de l'espoir est en train de développer un système d'échographie partagée via Internet, si vous voulez. C'est le système ECOS, qui est un système extrêmement performant, qui fonctionne avec le Cambodge, avec l'Afghanistan, avec le Mali. Et là, les médecins locaux peuvent faire des échographies, et un médecin référent en France, dans son bureau à Paris, à la chaîne de l'espoir, ou dans son bureau de médical, dans son hôpital, regarde l'échographie en direct et peut guider l'échographie. Donc ça, c'est extrêmement prometteur. C'est vrai que on manque de moyens dans beaucoup de pays, mais grâce à la technologie Internet et bien on espère pouvoir quand même débloquer de nombreuses situations.
Et ça, on y reviendra parce que c'était extrêmement intéressant. On y reviendra bien évidemment avec les professeurs Mamadou Bokary Diarra et le docteur Adama Sawadogo. Est-ce qu'il faut opérer toutes les malformations cardiaques, professeur, ou est-ce qu'il y a certains degrés, ce n'est plus possible ?
Lorsque les enfants sont trop gravement atteints et que le pronostic chirurgical est effectivement trop mauvais, force est de constater qu'on ne peut pas grand-chose, mais avant d'en arriver là, il reste encore une autre solution qui était à l'origine de la chaîne de l'espoir, qui est de transférer des enfants en France dans des centres chirurgicaux français avec des moyens de réanimation encore plus développés que ceux qu'on peut avoir là-bas. Donc lorsque l'on décide de ne pas opérer un enfant, que ce soit dans son pays ou en France, c'est que là, vraiment la situation est vraiment extrêmement dégradée. Hein.
Eh bien justement, on va avoir en ligne une ancienne patiente, c'est Vaseline, bonjour.
Bonjour.
Vaseline, vous avez 21 ans, vous êtes actuellement en deuxième année de médecine à l'université de Brazzaville. Et vous, eh bien, en 2011, vous avez été opérée d'une cardiopathie à Paris. Alors, à quel âge avez-vous été diagnostiquée? Et concrètement, qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque? Quels étaient vos symptômes?
Quand j'avais 7 ans, en 2006. Quand j'avais 7 ans, j'ai été diagnostiquée puisque souvent on constatait que je maigrissais. J'avais une toux qui ne se terminait pas. Souvent des douleurs. À moins de force, je m'essoufflais facilement. Et je tombais souvent malade. C'est là qu'on s'est rendu à l'hôpital. Et on a découvert la maladie.
Et justement, quelle a été votre réaction et la réaction de votre famille hein, quand on vous a parlé d'opération et en plus d'opération en France, Vaseline?
En fait, on était abattus puisque on n'a pas assez de moyens. Du coup, on se demandait est-ce que je vais mourir puisqu'on n'a pas assez de moyens pour ce genre d'opération. Ça nous faisait mal, on était démoralisés. Quand on nous a parlé de la chaîne de l'espoir, du coup, ça a redonné un peu le sourire à ma maman et à toute la famille. Et on espérait que ça puisse bien se passer pour que je puisse avoir vie comme les autres.
Oui, évidemment. Professeur Baron, en 2011, au Congo-Brazzaville, c'était compliqué d'opérer des cardiopathies?
Oui, c'était compliqué. Ça reste compliqué de toute façon actuellement. Et donc, pour ces enfants-là, ce que l'on faisait initialement à la chaîne de l'espoir, c'était de faire des transferts de malades en France pour soigner les plus graves. Malheureusement, en termes de santé publique, c'est pas très efficient, évidemment. Transférer des enfants, on en peut en transférer 100, 200 par an, très bien. Mais enfin, vaut mieux former les gens sur place et soigner sur place. En une mission à Brazzaville, on soigne quasiment l'ensemble des enfants qu'on pourrait transférer en une année en France, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Donc oui. Les objectifs...
Le rapport n'est pas intéressant, bien sûr.
Voilà, et puis...
Pardon, Vaseline, comment s'est passé votre séjour en France? Racontez-nous un petit peu combien de temps vous êtes resté, la famille d'accueil.
Je suis restée pendant 3 mois. Du coup, j'ai été accueillie par des gens adorables que jusqu'alors je ne les oublierai jamais. C'était formidable, mes séjours en France. Je ne voulais même pas rentrer dans mon pays puisque je m'étais déjà habituée. Je voulais rester. Comme c'était pas possible, fallait rentrer.
Vous étiez inscrite à l'école française, hein. C'est là que vous avez eu un choc, vous vous êtes mis à adorer les études. Du coup, le retour à Brazzaville était compliqué pour vous?
Non, ce n'était pas compliqué. En fait, je me suis performée, puisque la façon d'étudier en France et ici, c'est totalement différent. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire une performance. J'ai la chose que je n'arrivais pas à faire avant. Du coup, je l'ai trouvé maintenant facile. Le peu de temps que je suis passé, que je suis allé à l'école, ça m'a beaucoup aidé. Depuis lors, je fais un parcours exceptionnel à l'école.
Eh ben oui, c'est en deuxième année de médecine, ce qui est plutôt remarquable. Donc félicitations. Au niveau de la santé, comment allez-vous aujourd'hui?
Je vais parfaitement bien. Je suis en bonne santé.
Et votre regard en préparant cette émission, vous nous disiez que finalement votre regard sur la vie avait changé.
bien sûr. Puisque autrefois, j'étais toute timide, je restais dans mon coin. Je me disais que mes sœurs, ils étaient différents, ils étaient normales. Et que moi, je suis différent d'eux. Je refusais de rester avec les autres parce que je me trouvais toujours différente. Mais depuis lors, je vois le monde différemment parce que je trouve que je suis pareil avec les autres. Je peux faire tout ce qu'ils peuvent faire, ce que je ne faisais pas autrefois. Mais aujourd'hui, je peux le faire et on est pareil.
Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de la famille d'accueil qui vous avait reçue à l'époque?
Au début, j'avais leurs nouvelles. Ça fait quelques années qu'on a perdu contact.
Eh bien, restez avec nous. On va accueillir une autre invitée. C'est Clotilde Legrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes famille d'accueil depuis 13 ans. Alors vous préférez le terme famille de cœur. Hein. Vous avez déjà accueilli 13 enfants qui sont venus en France pour des opérations. Pourquoi avoir voulu être famille d'accueil ou de cœur?
C'est un choix de familial. Ça s'est produit de façon assez spontanément, dans le sens où on a vu une émission et puis je cherchais l'occasion de nous engager, nous la famille, dans un projet humain, et puis j'ai trois garçons formidables, et l'idée c'était de leur faire vivre et de leur faire partager un engagement. Et puis lors de cette émission, je me suis dit pourquoi pas nous, on en a parlé, et puis on a tenté l'aventure, et depuis chaque année on renouvelle parce que c'est une très 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 belle aventure.
Bien oui.
De partage, de joie.
13 enfants en 13 ans, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît? Comment est-ce que vous voyez votre rôle? Comment le définir, ce rôle que vous avez auprès de ces enfants?
Alors, on est une famille à part entière, et je suis une maman à part entière.
Certains vous appellent maman, c'est ça, hein?
Voilà, ils nous appellent maman parce que là-bas, c'est un signe de respect pour beaucoup d'enfants de ne pas appeler les adultes par leur prénom. Donc ça, je l'ai compris. Moi, l'enfant, il arrive chez nous, on s'adapte l'un à l'autre, on s'apprivoise. Et puis avec mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes voisins, mes amis, l'enfant se sent entouré puisque souvent, ce sont des enfants qui ont l'habitude d'être en grande famille avec beaucoup de monde autour d'eux. Donc ça les rassure et puis les choses se font naturellement. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de savoir qu'on me fait confiance et qu'on fait confiance à la famille et que comment je suis vraiment maman à l'hôpital, je peux être là tout le temps. Je peux passer la nuit si je le souhaite, je peux arriver et prendre tout le temps l'enfant dans mes bras. Donc l'enfant sent vraiment qu'il y a une maman derrière, il y a un papa derrière, il y a une famille derrière.
Bah, ça, c'est important. Vous êtes toujours auprès d'eux, hein. Vous les emmenez au bloc, vous leur tenez la main pour les rassurer. Vous vous occupez même de leurs problèmes dentaires parce que les enfants qui doivent être opérés du cœur doivent avoir une dentition parfaite.
En effet, ils arrivent souvent très très fatigués, épuisés. Souvent, ils ont énormément de mal à marcher quand le cœur est très fatigué et aussi des problèmes dentaires. Donc à ce moment-là, eh bien, nous devons agir et nous faisons appel à des dentistes qui jouent le jeu bénévolement de prendre en charge ces enfants. Donc ça retarde l'opération quelquefois de quelques semaines, d'une semaine ou deux en fonction.
Professeur Baron, pourquoi ces problèmes dentaires peuvent-ils avoir une interaction sur la future opération ?
Parce que les malformations cardiaques, qu'elles soient valvulaires ou malformatives, congénitales, génèrent des turbulences à l'intérieur des cavités cardiaques. Ces turbulences font que les germes, s'ils passent dans le sang, peuvent stagner en quelque sorte au niveau des cavités cardiaques et se greffer sur les tissus internes du cœur qui se défendent très mal contre l'infection. Et ça génère ce que l'on appelle comme maladie d'une endocardite qui est gravissime. Donc il faut absolument que les enfants aient une dentition parfaitement intacte lorsque l'on envisage une chirurgie cardiaque.
Voilà, et c'est pour ça que Clotilde Legrand les emmène chez des dentistes qui ne font pas payer, on a bien compris. Clotilde Legrand, comment évoluent les enfants entre leur arrivée en France pour la première fois et le retour 2 voire 8 mois plus tard? Comment vous les voyez évoluer?
Oh, c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'ils m'apprennent des choses et je leur communique des choses, je leur apprends des choses, on partage. En fonction si ce sont des garçons ou des filles, on adapte la vie quotidienne. Ils me suivent partout et ce qui est formidable, c'est que souvent, ils me montrent, quand beaucoup ne parlent pas français ou pas suffisamment bien. Donc on fait des gestes, on fait des signes, et puis comme cela, ils me montrent ce qu'ils aiment manger. Il faut faire très attention à ça. Et puis souvent, ils sont de culture ou de religions différentes. Pareil, je fais très attention à cela. Et petit à petit, on s'apprivoise. Alors c'est souvent par la nourriture que les choses en viennent. La première journée, ils sont très angoissés. Ils sont très fatigués par l'avion. Effrayés sûrement de voir tout ce monde autour d'eux, ce monde de blanc, ce monde de bruyant, ce monde de voitures.
Un monde qu'ils ne connaissent pas, évidemment.
Et bien sûr qu'ils ne connaissent pas. Et puis souvent, ils sont habillés de façon, comme dans leur pays, de façon légère. Ils arrivent
des petites tongs.
Ils arrivent en tongs, et puis certains avec des petites tenues, et puis on arrive avec un manteau, de quoi un petit sous-joue, et puis les choses se font. Et ce qui est formidable, c'est que les enfants sont des éponges, donc tout ce qu'on peut leur offrir, ils le prennent. Et il faut qu'ils le prennent, il faut qu'ils me fassent confiance, qu'ils fassent confiance à l'hôpital pour que l'opération se déroule dans les meilleurs délais, avec une acceptation. Et vous savez combien les enfants peuvent très bien être colériques ou pas d'accord, et surtout quand ils ne comprennent pas. Donc ils ont besoin de s'attacher à moi, à l'hôpital, et comme cela accepter la prise de sang, parce que les prises de sang, quand on les fait en Afrique, c'est pas comme chez nous, avec les crèmes qui protègent, qui empêchent les douleurs. Il y a toute cette adaptation à faire. Et quand ils repartent, c'est formidable, ils repartent avec le sourire, en courant. Bien sûr, avec un peu d'anxiété de retourner dans leur pays, mais une maman les attend là-bas, donc c'est formidable.
Ouais, c'est formidable. Professeur Olivier Baron, vous avez, vous aussi, servi de famille d'accueil à un jeune malgache que vous aviez opéré vous-même. C'était une mauvaise idée, selon vous ?
Alors, c'était il y a quelques années, projet familial d'accueillir un petit enfant. Mauvaise idée parce que c'est difficile d'être à la fois...
Le médecin et le papa, entre guillemets.
Le médecin et le papa, il faut choisir. Et donc, j'en garde un excellent souvenir, mais on n'a pas renouvelé cette expérience tant que je continuerai à opérer ces enfants, parce que ça me met dans une situation un petit peu compliquée.
Est-ce qu'il y a suffisamment de familles d'accueil, professeur Baron ? En France, je veux dire.
Les gens sont généreux et.
Ah, ça, je n'en doute pas.
On a un réseau de familles d'accueil dans la région nantaise ou dans la région parisienne et même dans les autres régions qui travaillent avec la Chaîne d'Espoir, qui est assez étoffée. Mais il n'y a jamais suffisamment de familles d'accueil parce qu'on voudrait. Les besoins sont tellement grands que on voudrait en faire venir plus. Mais globalement, la générosité est telle que lorsqu'il y a une urgence, à l'improviste, on arrive toujours à trouver des gens pour l'accueillir.
Professeur Baron, vous restez avec nous. Merci infiniment, Clotilde Legrand. Merci, Vaseline. Très bonne journée à Brazzaville. On marque une petite pause en musique. Let's be happy. Let's go crazy. Come on and sing with me. Si ana tati fumba fa fizalana wanra pumba. Puman fiana pifalina manra suya noralina. Sacitina nifisi nifizi kitikin. Si mi spetta fale wanzere tare tavita. Ado yara dus mera kamzatin. Anka fizu niputona. Resere tare tamanulum. De anda wandi ande ikikik. Ande iri arri iara ka iira. Rambula beluna nandoviri arri anna musica ya ein. Let's be happy, so short life is. Let's go crazy, come on and sing with me. Let's be happy, so short life is. Let's go crazy, let's do party. Come on and sing with me. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de chirurgie cardiaque de l'enfant avec notre invité, le professeur Olivier Baron, chef de service de chirurgie des cardiopathies congénitales et pédiatriques au CHU de Nantes, responsable de l'antenne nantaise de l'association La Chaîne de l'Espoir et chirurgien référent pour les programmes de chirurgie cardiaque de l'association. Professeur Olivier Baron, comment se fait le choix des enfants à opérer, le choix du médecin et de l'hôpital ? Je parle des enfants qui viennent en France, hein, évidemment.
Alors, les dossiers nous sont envoyés par des cardiologues référents. Parce qu'on a tout un réseau en Afrique et dans le monde entier de cardiologues référents qui travaillent avec nous, avec la Chaîne de l'Espoir. Et donc, ils nous envoient les dossiers. Et après, il y a des réunions au sein de la Chaîne de l'Espoir avec les spécialistes de... soit des pathologies valvulaires, soit des cardiopathies congénitales, pour évaluer les dossiers. Et c'est toujours des moments un petit peu compliqués, parce qu'évidemment, on a envie de sauver tout le monde, et il y a des choix à faire. parce que il faut évaluer la gravité de la situation et le bénéfice apporté par l'intervention. Donc ça se fait comme dans toute décision médicale, je dirais, on nous envoie un dossier et c'est sur dossier que l'on décide ou pas d'accueillir cet enfant.
Généralement, combien coûte une opération d'un enfant en France ? Parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre.
12 000 euros minimum.
Ah oui, donc ça a quand même un coût.
12 000 euros minimum, c'est une vraie somme.
Bah, c'est une somme considérable. Il faut dire que voilà, les frais d'hospitalisation coûtent cher hein, par jour.
Oui, oui, les durées de réanimation, c'est une spécialité hyper pointue qui nécessite une haute technicité avec des séjours en réanimation et très très vite, on arrive à des sommes qui dépassent les 10 000 euros. C'est exceptionnel d'avoir une intervention en dessous de 10 000 euros.
Et puis, bien, vous opérez également dans les pays concernés, que ce soit en Asie ou en Afrique. Parlez-nous un petit peu de ces missions, comment elles s'organisent. On imagine que bah, il faut tout importer, le matériel, la logistique. C'est compliqué à organiser tout ça.
Oui, c'est compliqué parce que vous imaginez bien que transporter un bloc opératoire parisien à Bamako, c'est pas simple. Alors à Bamako, en l'occurrence, il a fallu d'abord construire une structure avec deux blocs opératoires, 6 lits de réanimation, une structure ultra moderne. Il ne s'agit pas de faire de la sous-médecine dans ces pays-là. Donc c'est une structure aux normes européennes. Et puis tout a été équipé comme dans nos hôpitaux européens. Donc il y a toute une équipe logistique au sein de la chaîne de l'espoir qui organise de façon merveilleuse, petites fourmis dont on parle jamais, mais qui font un travail extraordinaire. Et donc tout a été équipé. Et puis lors de la première en 2018, l'équipe toulousaine qui avait été dépêché là-bas, avait organisé le bloc opératoire comme il se doit. Et puis nous sommes arrivés pour opérer le premier enfant en 2018, septembre 2018, je me souviens très bien.
La petite Fanta, mais alors attendez professeur, excusez-moi, parce que on va justement être en ligne avec le professeur Mamadou Bokary Diarra, bonjour.
Très bien. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue, directeur de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg à Bamako, au Mali. Un hôpital, le professeur Baron le disait, qui abrite le centre André Festoc, une unité de chirurgie cardiaque pédiatrique ultra-moderne, donc inaugurée, on l'a bien compris, en 2018. Professeur Mamadou Bokary Diarra, comment le Mali a réussi à se doter d'une telle structure ?
Le Mali, grâce à l'acharnement de la chaîne de l'espoir, notamment le professeur Alain Deloche.
Qui sera avec nous à la fin de cette émission, hein?
Exactement. Depuis des décennies, le professeur Alain Deloche se bat. Nous avons essuyé beaucoup de désillusions avant de pouvoir bénéficier du don de Mme Festoc pour la réalisation de ce centre-là. Sinon, nous avions avalé beaucoup de désillusions. Heureusement, Mme Festoc est venue à notre secours. Et de par la générosité et l'amour du professeur Deloche vis-à-vis de ses amis maliens, il a décidé que ce don sera investi à la création de ce centre de chirurgie cardiovasculaire en République du Mali. Avant la création de ce centre, il faut noter que la chaîne de l'espoir était à la base de plus de 800 enfants que nous avions évacués en France ou dans d'autres pays pour bénéficier de cette chirurgie cardiovasculaire. Donc il faut saluer la chaîne de l'espoir, il faut saluer l'effort du professeur Deloche et surtout honorer la mémoire de André Festoc et s'incliner devant Madame Festoc pour ce geste de très très grande générosité.
Professeur Diarra, du coup, avec justement ce don de Madame Festoc qui a permis la création de cette unité, vous avez réalisé la première opération à cœur ouvert. C'était donc sur la petite Fanta qui avait 6 ans à l'époque. Professeur Olivier Baron était à vos côtés. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, professeur Diarra?
C'est la consécration de plusieurs décennies d'efforts. Et c'était une merveille parce que c'était une des toutes premières en République du Mali. Et c'est le couronnement de toute une carrière. Et grâce à la générosité de Mme Festoc, grâce à l'effort du professeur Deloche, grâce à nos amis de la France, notamment Olivier Baron, qui ont bien voulu tenter le jeu et se plonger avec nous vraiment pour essayer de réaliser enfin, de hisser la médecine malienne au niveau des soins de ce siècle-là. Plus que ému, et cela me restera gravé dans la mémoire toute ma vie.
Ah bah écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Professeur Olivier Baron, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette première opération à cœur ouvert ?
On pourrait parler d'achèvement, mais en fait pas du tout. C'était l'achèvement parce que c'est une coopération de décennies avec le professeur Diarra, mais c'est le début d'une ère nouvelle, vous vous rendez compte, un centre de chirurgie cardiaque au Mali, c'est merveilleux, donc c'était le début d'une coopération et c'est un grand espoir qui est délivré à toute cette zone subsaharienne, parce que je sais pas si on en parlera, mais ces centres réalisés en Afrique sont destinés à avoir une aura sur tous les autres pays limitrophes pour pouvoir en soigner le plus possible d'enfants africains en Afrique.
Bien sûr. Professeur Diarra, combien d'enfants avez-vous opéré donc depuis 2018 et la création
depuis
de ce centre?
Depuis 2018, nous avons opéré à environ 244 enfants. C'est un grand progrès et l'équipe est en train de gagner en autonomie. Mais l'engouement du centre depuis, il y a 1738 personnes qui ont consulté dans l'espoir d'être pris en charge. Ça, c'est dans l'engouement de la création du centre. Mais il y a 3000 et quelques enfants sur une liste d'attente qui ne cesse de s'allonger au jour le jour. Le centre, c'est certainement un grain d'espoir pour la République du Mali. C'est la consécration de beaucoup d'efforts, mais c'est aussi l'ambition que nous nourrissons, c'est de voir ce centre se grandir.
Et notamment opérer donc, les adultes, ça serait envisageable ça, d'opérer des adultes également?
Et nous prenons enfants et adultes en ce moment parce qu'il n'y a pas d'autres centres de chirurgie cardiovasculaire à la République du Mali. Mmh. C'est difficile de voir les adultes mourir sous nos yeux alors que nous avons la possibilité de les prendre en charge. Mais nous ne pouvons pas prendre en dessous de 10 kilos. Nous ne sommes pas équipés pour cela. Et pour ça, nous risquons de perdre beaucoup d'enfants qui ont ce besoin-là et qui ne pourront pas bénéficier de ce centre.
Professeur Diarra, en 2019, le gouvernement malien devait prendre la relève de la chaîne de l'espoir. Est-ce que ça s'est fait ou pas, finalement?
Malheureusement, j'attends toujours. Je ne désespère pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je ne le désespère pas. Mais la chaîne de l'espoir s'était engagée de prendre le centre en charge toute l'année 2018, à partir de janvier 2019, c'est le gouvernement malien, conformément aux anciens protocoles d'accord que nous avons signés, conformément aux promesses que nous avons été tenues, mais jusqu'ici rien n'a été fait.
Et est-ce que la pandémie de Covid-19 peut retarder encore l'engagement du gouvernement malien?
Il n'y a que des priorités, priorité sur priorité, ça c'est incontestable. Et ce n'est pas la première des priorités, mais un petit effort doit être fait. Quand des gens qui ne sont pas du même pays que nous, qui ne sont pas de la même nationalité que nous, qui ne sont pas de la même religion que nous, qui ne sont même pas du même continent que nous, se sacrifient pour venir nous aider, nous devons faire un geste de solidarité vis-à-vis d'eux et montrer notre compassion vis-à-vis de nos propres enfants chez nous. Je ne doute pas que le ministère de la Santé va s'engager dans les jours à venir, mais il est urgent et il est temps qu'un geste se fasse pour honorer la mémoire de ceux qui ont voulu que le Mali passe aux soins de son siècle.
Merci infiniment, professeur Mamadou Boukari Diarra. Je rappelle que vous êtes cardiologue, directeur de l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg à Bamako.
La santé, c'est une priorité.
Et après le Mali et la Cora, nous partons au Burkina Faso. Nous sommes en ligne avec le docteur Adama Sawadogo. Bonjour.
Bonjour Igor.
Vous êtes chirurgien cardiovasculaire au CHU de Tangandogo à Ouagadougou. Alors, vous n'êtes que deux chirurgiens cardiaques dans tout le pays, un pays de 20 millions d'habitants. Ça fait pas beaucoup, docteur Sawadogo.
Effectivement, ça ne fait pas beaucoup. Nous tentons de faire le mieux que nous pouvons, mais nous sommes appuyés par une équipe qui est assez complète actuellement, puisqu'on a à nos côtés un autre chirurgien thoraxique. Ensuite, nous avons formé deux médecins anesthésistes en réanimation et en anesthésie du cœur.
nous avons un spécialiste de la circulation extracorporelle qu'on appelle perfusionniste. Nous avons formé aussi 3 responsables infirmiers, donc respectivement en instrumentation, en réanimation et pour le service d'hospitalisation. Et bien sûr, nous sommes appuyés par beaucoup de cardiologues qui sont dévoués. Et tout ça est sous le couvert de l'administration de l'hôpital.
Mais on parlait tout à l'heure avec votre collègue malien de ce problème des listes d'attente. Hein, plus de 3000 enfants qui attendent rien qu'à Bamako, au Mali. Vous, au Burkina, combien d'enfants sont sur liste d'attente?
Alors, chez nous, le problème est un peu différent. Dans la mesure où nous avons commencé nos activités il y a moins de 2 ans, donc nous avons une liste à notre niveau qui n'est pas nationale. Et notre liste, on a près de 1000 enfants déjà, mais partout à Ouagadougou et dans les hôpitaux de région, et chaque cardiologue a sa liste à part. Et ça fait que si on cumule l'ensemble, on va se retrouver à des milliers de patients qui sont en attente.
Ben ça, c'est problématique pour les enfants, non?
Oui, bien sûr.
Parce que c'est quand même un problème de santé publique, si j'ai bien compris ce problème des malformations cardiaques au Burkina Faso. C'est un gros souci.
Oui. Donc, il y a une étude qui a été donc réalisée donc, au Burkina Faso, ici, à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, qui retrouvait que la cardiopathie congénitale représentait à peu près 9 enfants sur 1000 naissances vivantes. Et donc, vous comprendrez que c'est un problème de santé publique dans la mesure où les enfants âgés de 0 à 14 ans représentent jusqu'à 45% de la population du Burkina.
Alors, 9 enfants pour 1000, pour bien comprendre, professeur Olivier Baron, quels sont les chiffres en France ou en Europe? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons pour bien mettre en perspective ce chiffre?
9 enfants sur 1000, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Au début de notre entretien, c'est 1% des naissances qui se soldent par une malformation congénitale.
Donc qu'on soit en France ou en Afrique, c'est les mêmes chiffres?
C'est exactement les mêmes chiffres. La seule différence sont les cardiopathies acquises liées aux problèmes infectieux. Mais les malformations congénitales, que ce soit partout dans le monde, c'est la même incidence. Ensuite, évidemment, le diagnostic est fait dans 70% des cas en anténatal en France et en Europe, alors qu'en Afrique, il est fait en post-natal lorsque les pathologies sont évoluées et lorsque les pathologies sont plus compliquées à prendre en charge.
Docteur Adama Sawadogo, avec la pandémie de Covid-19, donc votre activité de chirurgie cardiaque s'est arrêtée puisque votre hôpital a été réquisitionné pour traiter les cas de Covid-19 qui sont déclenchés au Burkina. Cette levée de réquisition s'est levée, si je crois bien, le 13 juillet. Est-ce que du coup le service a repris ou pas encore?
Oui, c'est ça. Et en mars 2020, suite à l'avènement de la Covid-19, et les plus hautes autorités de notre pays avaient décidé de réquisitionner notre hôpital, qui ne traitait que les patients souffrant de Covid. Mais fort heureusement, le 13 juillet passé, donc il y a moins de 2 semaines, il y a eu une levée de réquisition. Et présentement, où je vous parle, je suis au bureau et j'ai suspendu ma consultation pour vous parler.
Oh bah donc c'est gentil,
on va
ne faites pas trop patienter le patient, on s'en voudrait, on va culpabiliser. Allez, une dernière petite question, docteur Adama Sawadogo. En 2019, donc la chaîne de l'espoir est venue faire des opérations à cœur fermé au Burkina, oui, Faso. Ça a été apparemment énormément médiatisé. Est-ce que ça a finalement, oui, servi la cause de la chirurgie cardiaque?
Effectivement. Je écoutais tantôt le professeur Diarra qui parlait d'un engouement. Et depuis que nous avons mené cette mission, où on a opéré 8 enfants qui souffraient d'une persistance du canal artériel, donc grâce à l'appui de la chaîne de l'espoir et du centre cardio-pédiatrique QMO de Dakar, par l'intermédiaire du professeur Gabriel Cisse, donc chaque jour, je reçois beaucoup de patients, donc à la fois des enfants comme des adultes. Et actuellement, nous avons pu enrôler des centaines de patients et notre liste est très longue et continue de s'allonger.
Mmh. Et écoutez, merci infiniment, docteur Adama Sawadogo. Je vous renvoie à votre patient. Voilà, ainsi s'achève notre entretien. Je rappelle que vous êtes chirurgien cardiovasculaire au CHU de Tangandogo à Ouagadougou. Bonne journée à vous.
Sukate Esengo Esengo nanga Ezana sukate Namemi mokilie Namemi mokilie Naloni banguna Nazali mama na yo Nazali yaya na yo Nazali moninga na yo Ye 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 Nazali mama na yo Nazali yaya na yo Nazali moninga na yo Ye 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 ye
Priorité santé suite et fin. Nous sommes à présent avec le professeur Alain Deloche. Bonjour. Professeur Alain Deloche, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Oui. Professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque et fondateur de l'association La Chaîne de l'Espoir. Voilà, vous l'avez fondée en 94 au début, professeur.
Oui, ça fait près de 25 ans.
Ça fait près de 25 ans, mais au début, vos missions étaient surtout au Vietnam et au Cambodge, en Asie du Sud-Est donc.
Oui,
à partir de quel moment avez-vous amorcé le virage africain ?
Oh ben, le virage africain a été pris très tôt, simplement vaste tâche. Je pourrais dire que, bon, au départ, comme vous le savez, et c'est l'acte fondateur, c'était de faire venir en France des enfants. Chose qui continue. Donc quand même, près de 5000 enfants sont venus en France en 25 ans.
Ah ben, c'est quand même pas mal.
Oui, ça fait. Alors très tôt, bien sûr, on s'est donné comme objectif d'opérer les enfants dans leur pays, si possible avec des équipes formées dans ce pays, avec des structures bâties et équipées dans leur pays. Vaste tâche, mais c'était au fond, si on voulait simplifier les choses, pour nous maintenant c'est bâtir et former ou former et bâtir.
Mmh. Alors justement, on a parlé tout à l'heure du centre André Festoc, hein, une unité de chirurgie cardiaque pédiatrique ultra moderne inaugurée en 2018 au Mali. Mmh. Mais avant cela, il y avait eu la création d'un centre à Dakar, le centre Koumo.
Oui, le centre Koumo qui a juste précédé de 2 ans l'ouverture du centre Festoc. Et c'est maintenant un hôpital de référence. Dakar, un peu plus grand que celui du Mali, et c'est un centre de référence en termes de formation. Et ça, c'est très important parce que je vais vous faire une confidence. Maintenant, il faut faire du sud-sud. C'est-à-dire que...
En termes de formation, c'est ça ?
Oui, et ça c'est très important parce qu'on est confronté à une nouvelle génération étincelante de chirurgiens, de cardiologues africains, et nos pays se ferment. La France se ferme quelque peu.
Pour les étudiants africains.
Et donc, les possibilités de formation sont au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, et vous le savez, vous ne le savez pas, toute l'équipe du Sénégal a été formée au Vietnam.
Eh ben, le docteur Adama Sawadogo de Ouagadougou, qui était avec nous il y a 3-4 petites minutes à peine, a fait une partie de son cursus au Vietnam.
Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle le Sud-Sud. Et tout ceci en France, se fait en français.
Mais c'est une très bonne idée. Alors, il faut aller dans ce sens. Est-ce que à la fois les États d'Asie du Sud-Est et africains sont prêts à cette collaboration Sud-Sud ?
Ben, je le pense, elle se fait. C'est d'actualité. Alors c'est vrai que nous avions bâti un centre au Vietnam bien avant, c'est-à-dire qui a été inauguré en 1992, vous voyez, c'est bien avant. Et donc ça, c'est un peu une satisfaction que l'on a, que ces échanges qui bouleversent tout. Donc je ne suis pas foncièrement pessimiste. Je serais même plutôt optimiste sur l'avenir. Bien sûr, la clé, c'est la formation et bien sûr des centres de référence.
Des centres de référence qui, pour être construits, ont besoin de financement. Et on bien en sûr. Revient, professeur Deloche, au fameux nerf voilà. de la guerre. Voilà. Rappelons tout de même que le centre Cuomo de Dakar a coûté 7 millions d'euros, financé oui. par une certaine Elena Cuomo, une riche monégasque.
Cuomo, oui. Voilà. Une femme de cœur.
Pareil, au Mali, c'était un don de Madame Festock. Vous dépendez des dons que font les États, j'ai envie
oui.
de dire. Professeur.
Oui, les États ou ce qu'on dit l'argent institutionnel, sont plutôt frileux concernant la problématique de l'enfant cardiaque. C'est là un sujet d'étonnement pour nous.
Mais pourquoi une telle frilosité justement ?
Pardon ?
Pourquoi une telle frilosité selon vous ?
Je n'ai pas d'explication, parce que je trouve, et c'est bien de faire une émission dédiée à l'enfant cardiaque, parce que c'est quand même un vrai problème de santé publique. C'est pas quelques cas, ce sont des milliers de cas. Donc, une charge pour la famille. Donc c'est vraiment des problèmes de santé majeurs. Et on manque encore d'aide officielle.
Professeur Olivier Baron, vous pensez, comme le professeur Deloche, que l'avenir n'est pas, il faut pas être pessimiste et qu'il faut développer la formation Sud-Sud.
Olivier, je crois qu'il n'est pas là.
Ah, Olivier est parti. Eh ben, écoute, s'il est parti.
Mais non, il est là. Je vous le passe.
Ah, vous êtes oui. sur le même téléphone. Vous êtes à côté.
Oui, on est ensemble.
Oh bah écoutez, non voilà, je voulais vous faire rebondir parce que on arrive à la fin de cette émission. Je voulais qu'on vous entende une dernière fois. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme du professeur Deloche sur ces fameux rapports Sud-Sud au niveau de la formation ?
J'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est là-dessus qu'il faut compter parce que les centres que l'on crée en Afrique, eh bien, ils vont être des centres de formation et ils vont essaimer. Et c'est ça. La France a ses problèmes. La France ne peut plus être aussi rayonnante qu'à une époque. Et la France ne peut plus accueillir tous ces gens, ces jeunes en formation pour des raisons qui sont compréhensibles, peu importe. Et donc, c'est à nous de nous déplacer. Et néanmoins, la chirurgie et la médecine, c'est un métier de compagnonnage qui s'apprend sur le terrain. Et donc, ces centres, que ce soit à Dakar, au Mali ou ailleurs bientôt, eh bien, ça va devenir également des centres de formation et c'est là-dessus qu'il faut compter.
Eh bien écoutez, on en restera là. Merci infiniment professeur Olivier Baron. Je rappelle donc que vous êtes le chef du service de chirurgie des cardiopathies congénitales et pédiatriques au CHU de Nantes. Et évidemment, merci infiniment professeur Alain Deloche. Vous êtes chirurgien cardiaque mais surtout fondateur de l'association La Chaîne de l'Espoir. C'est la fin de cette émission préparée comme d'habitude par Assetou Samaké et Ophélie Lassène à la technique et à la réalisation. C'était Didier Bleu avec la complicité de Laurence Snow. Demain, nous parlerons d'alcoolisme au féminin. Bonne journée à tous et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.